Moi, je suis heureux de traiter un sujet que je n'ai pas choisi, qui m'a été proposé, mais il est original. La façon dont on se confesser. Alors, évidemment, on ne sait pas grand-chose, puisque nous avons la fameuse secrète confession. Mais il y a des choses intéressantes à dire. Vous savez que la plupart du temps, on ne se souvient pas de ce que l'on a entendu en confession, de ce que l'on a entendu du prêtre. Si je pense à mon exemple personnel, je me suis confessé pendant 6 ans au séminaire à un prêtre merveilleux. C'est d'ailleurs lui qui m'a suggéré de faire une thèse sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le Père Lécuyer, qui est devenu ensuite supérieur général des Spiritains. Donc, je me suis bien fait ce jour, le jour justement, on m'a dit, pourquoi vous ne feriez pas votre thèse sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Et je lui ai répondu aussitôt, oh mon père, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, on peut se confesser pendant des années à un prêtre qui a eu beaucoup d'influence sur vous et ne se souvenir de rien. Tant il est vrai que son influence est beaucoup plus profonde que tout ce qu'on peut dire. Alors, il y en a qui sont très marqués par une confession. Je pense à la confession qu'a faite ici à Paris, en l'église Saint-Augustin, le père de Foucault, à la fin d'octobre 86. Ça l'a bouleversé. Il est vrai de se confesser à un saint. En canonnerait aujourd'hui l'abbé Pignan. Ou bien la confession qu'a faite 23 ans plus tard, près de la cathédrale de Cambrai, un grand trappiste qui avait fait son nom 23 ans après Charles de Foucault, vétérinaire, qui était le seul de père de Foucault, et qui s'est converti la veille de Noël 1909 à l'aumônerie militaire de Cambrai. Quelques quarts d'heure après, il va à la cathédrale de Cambrai et c'est une conversion formidable. Voilà. Le pape François a dit qu'il avait été très frappé par une confession qu'il avait faite lui-même. Alors, il y en a qui sentent quelque chose. Un jour que je confessais pas loin de Paris un médecin, il m'a avoué que lors d'une autre confession à un autre prêtre, il s'est senti empoigné par Jésus au moment où il disait quelque chose de difficile. Bon. Alors, venons des confessions de Thérèse. La première fois qu'elle se confessait, c'était à l'abbé Ducellier, qui était vicaire à la cathédrale de Lisieux. Vous savez quelle cathédrale à Lisieux, parce que jadis il y avait un évêque. Oh, ma mère chérie, avec quel soin, dit-elle à sa sœur, quand elle écrit ses souvenirs, sa sœur Agnès de Mère Agnès de Nuit. Pauline de Mère Agnès, avec quel soin m'aviez-vous préparé? Mais disons que ce n'était pas un homme, mais au bon Dieu que j'allais dire mes péchés. J'en étais tellement bien convaincu que j'ai fait ma confession avec un grand esprit de foi, et même je vous demandais s'il ne fallait pas dire à M. Ducellier que je l'aimais de tout mon cœur, puisque c'est le bon Dieu que j'allais, à qui j'allais parler en personne. Moi, c'est un souvenir très, très, très amusant que j'ai. Je me souviens avoir salué un prêtre dans la rue alors qu'il ne me regardait pas, parce que ma maman me dit que. Ah.
Est-ce que ça va bien, vous m'entendez?
Sans micro, je pense que ça marcherait mieux. On essaye ça.
Monsieur Ducellier vient pour faire une petite visite. Bon, il avait pas reçu à la maison que la petite Thérèse entre dans la maison pour me voir et regarder la voir. J'étais bien fier de recevoir mon professeur, car peu de temps avant, je m'étais confessé pour la première fois, car d'où se doit pour vous. Voilà. Alors, ensuite, on va.
C'est magnifique. Alors, il faut peut-être que je parle moins fort. On va essayer. Oh, c'est magnifique. Donc, ensuite, elle va chez les bénédictines. Et là, elle va voir comme confesseur l'aumônier, l'abbé Domain, qui va la préparer à sa première communion. Et on ne sait évidemment rien de sa première communion, sinon qu'elle a pris trois résolutions qu'elle a écrites et qu'on a retrouvées. Je ne me découragerai jamais, je réciterai tous les jours un souvenez-vous, et je tâcherai d'humilier mon orgueil avec une faute d'orthographe qu'elle va faire pendant des années pour écrire le mot orgueil. La deuxième communion, on sait davantage qu'elle va avoir malheureusement une mauvaise la retraite préparatoire à la seconde communion qu'elle fait à 12 ans et demi, va la traumatiser, parce qu'à l'époque, on assistait beaucoup, lors de la retraite, sur le danger de faire une mauvaise confession, et donc une mauvaise communion. On assistait beaucoup sur le péché mortel que l'on faisait, sinon cacher quelque chose de grave en confession, et ça va la traumatiser, comme d'ailleurs ça a traumatisé d'autres enfants à ce moment-là. Et cette crise de scrupules va durer 15 mois. Voici ce qu'elle en dit. L'année qui suivit ma première communion se passa presque entièrement sans épreuve intérieure pour mon âme. Mais après la deuxième communion, ce fut une véritable maladie de scrupules. Toutes mes pensées et mes actions les plus simples devenaient pour moi un sujet de trouble. Je n'avais de repos qu'en les disant à Marie, sa sœur aînée, ce qui me coûtait beaucoup, car je me croyais obligé de lui dire les pensées extravagantes que j'avais d'elle-même. Aussitôt que mon fardeau était déposé, je goûtais un instant de paix, mais cette paix passait comme un éclair, et bientôt mon martyre recommençait. Quelle patience n'a-t-il pas fallu à ma chère Marie pour m'écouter sans jamais témoigner d'ennui. Alors, ces scrupules vont avoir toutes sortes de sujets. Peut-être que c'est le moment où elle va à la mer, à Deauville, à Trouville. Peut-être qu'elle voit des personnes un peu dénudées, mais pas tellement. Vous savez, à l'époque, on était presque habillés de... C'était pas le Burkina, mais c'était pas l'abbé musulman. Mais on avait des grandes manches et on mettait tout ce qu'il fallait pour ne pas bronzer à l'époque. C'était la honte de bronzer. Et puis, à un certain moment, elle quitte l'abbaye, elle quitte le pensionnat, tellement elle est désolée d'être toute seule à l'abbaye. Mais elle va prendre une soeur particulière chez une vieille demoiselle, mademoiselle Papineau. Et alors, évidemment, là, on fait beaucoup d'éloges de cette jolie jeune fille. Une dame disait que j'avais de beaux cheveux. Une autre, en sortant, croyant ne pas être entendue, demandait quelle était cette jeune fille si jolie. Et ces paroles, d'autant plus flatteuses qu'elles n'étaient pas directement adressées à moi, laissaient dans mon âme une impression de plaisir qui me montrait clairement combien j'étais rempli d'amour propre. Oh, comme j'ai compassion des âmes qui se perdent.
Oh, si mon cœur n'avait pas été élevé vers Dieu dès son éveil, si le monde m'avait souri dès mon entrée dans la vie, que serais-je devenu? Avec quelle reconnaissance je chante les miséricordes du Seigneur. Et puis elle confie un petit péché de vanité qu'elle a fait en allant à la plage et dont elle s'est confessée. Oh. Ma tante m'avait donné pour mes cheveux, je m'en souviens, de jolies sauges à mettre dans mes cheveux. Et je m'en suis confessé à Trouville, même de ce plaisir enfantin qui me semblait être un péché. Alors comment va-t-elle sortir de ces terribles scrupules? Eh bien d'abord, elle prend la résolution de ne jamais en parler à confesse. Donc son confesseur ne s'est jamais aperçu qu'elle avait des scrupules. C'est le conseil d'ailleurs que l'on donne toujours. Elle ne disait strictement que ce que sa grande sœur lui donnait la permission de dire. Et quand sa grande sœur est entrée de nouveau au Carmel, en octobre 85, pour rejoindre Pauline, elle se dit, comment je vais faire? Je n'aurai plus Marie pour m'aider à m'en sortir. Alors elle a l'idée de se tourner vers ses frères et sœurs qui sont morts en bas âge, et elle se dit, j'ai toujours été la dernière, la très aimée, la petite Benjamine, ils vont s'occuper de moi. Et effectivement, elle est magnifiquement exaucée, donc quelques mois avant sa fameuse grâce de décembre 86, la nuit de Noël, elle est délivrée de ses scrupules. Enfin, mais plus tard, ça va l'aider à comprendre les autres. Ça va l'aider notamment à comprendre sa cousine Marie Guérin, auquel, vous savez que Marie Guérin, c'était la cousine charnelle de Thérèse, hein, la fille du pharmacien Guérin. Isidore était son oncle maternel, et l'une de ses filles est devenue religieuse également, sous le nom Sœur Marie d'Eucharistie. Et avant d'entrer au Carmel, elle aussi a été prise terriblement de scrupules, notamment lors d'un voyage à Paris. Cette Marie Guérin est venue visiter les musées, il y avait beaucoup de statues de nus, et donc elle s'est imaginée faire des fautes contre la chasteté en s'attardant peut-être un peu trop devant une statue. Non, il est impossible. Alors, Thérèse lui écrit en mai 89. Non, il est impossible qu'un cœur qui ne se repose qu'à la vue du tabernacle offense Jésus au point de ne pouvoir le recevoir. Ce qui offense Jésus, ce qui le blesse au cœur, c'est le manque de confiance. Et très tôt, Thérèse a compris que la confiance et l'amour, c'était l'essentiel. On y reviendra tout à l'heure. On dit souvent aujourd'hui que Thérèse a beaucoup évolué, très peu. Elle a approfondi ce qu'elle savait déjà. Voyez. Elle n'a jamais pensé que, par exemple, qu'on allait à la sainteté à la force des poignets. Jamais. On le verra tout à l'heure. Et alors, ton cœur est fait pour aimer Jésus. Petite sœur Jérus, communie souvent, bien souvent. Voilà le seul remède si tu veux guérir. Si tu veux faire une pénitence, tu vas communier une fois de plus. Jésus n'a pas mis pour rien cet attrait dans ton âme. Je crois qu'il serait content si tu pouvais reprendre les deux communions que tu as manquées, car alors la victoire du démon serait moins grande. Et c'est l'un des textes que le postulateur de la cause de béatification va présenter à Pie X. Vous savez que Thérèse a bénéficié d'un excellent. Elle a, pour réussir à procéder de canonisation au Vatican, il faut avoir un bon défenseur. Et Thérèse a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a eu les arguments essentiels pour persuader Pie X d'accélérer ce procès de béatification. Le premier argument, il lui a montré la lettre où Marc Sangnier, qui avait été condamné par Pie X à cause de son mouvement, le Sillon, Marc Sangnier s'était un tout petit peu révolté contre l'Église, et puis tout de suite, on ne sait pas pourquoi, il a vu sur sa table l'histoire d'une âme, il l'a lu, ça l'a bouleversé, et c'est grâce à cette lecture de l'histoire d'une âme que Marc Sangnier ne s'est pas révolté contre l'Église. Alors quand le pape Pie X a trouvé ça, c'était extraordinaire. Deuxième argument, le postulateur lui montre cette lettre de Thérèse à Marie Guérin en lui disant, montrant combien Thérèse était tout à fait pour la communion fréquente, comme Pie X lui-même. Nous avançons. Thérèse, dont
connaît sa grande grâce de Noël 86, où elle est débarrassée des langes de l'enfance, elle devient enfin une grande fille, elle ne pleure plus pour un rien, car je rappelle que c'est la grande date de Thérèse, hein, Noël 86. Au retour de la messe de minuit, le papa voit que les cadeaux sont encore préparés dans la cheminée, comme on le faisait souvent à l'époque, et Thérèse est au premier étage pour enlever son chapeau, son manteau. J'espère bien que c'est la dernière année. Thérèse est suffisamment grande pour qu'on ne fasse plus des choses comme ça. Le papa, qui avait tendance à materner un peu trop sa petite fille sans la gâter, aurait pu s'apercevoir que sa petite Benjamine était devenue une grande fille de 14 ans. Ce qui est amusant, au moment où le papa réalise enfin que sa petite fille est une grande fille, elle devient une grande fille. Papa n'est pas content, tant pis. Elle défait son manteau, son chapeau, descend l'escalier comme si le papa n'avait rien dit, et elle défait ses cadeaux avec une joie extraordinaire. Si on n'en revienne pas, Thérèse n'est plus la même. Oh non, le travail que je n'avais pas pu faire en 10 ans, Jésus l'a fait en un instant, se contentant de ma bonne volonté. Et Thérèse ne pleure plus pour un rien. Voilà, c'est la grande date de sa vie. Non. Alors, à ce moment-là, elle se met, elle a comme confesseur un autre vicaire de Saint-Pierre, non plus l'abbé Ducellier, mais l'abbé Lepelletier, qui a 33 ans, et c'est à lui qu'elle se confesse. Et elle obtient de lui, elle a de la chance, elle obtient de lui le fait de pouvoir communier souvent, ce qui était assez rare, vous le savez. Hein, personne ne communiait tous les jours. Si M. Martin, plus tard, aura la permission de communier tous les jours, alors que sa fille au Carmel ne l'aura pas. Il se donne lui-même, Jésus, dans la Sainte Communion, plus souvent que je ne l'aurais espéré. J'avais pris pour règle de conduite de faire, sans en manquer une seule, la communion que mon confesseur me donnerait, mais de le laisser en régler le nombre, sans jamais lui en demander. Je n'avais point à cette époque l'audace que je possède maintenant, sans cela j'aurais agi autrement. Car je suis bien sûr qu'une âme doit dire à son confesseur l'attrait qu'elle sent à recevoir son Dieu. Ce n'est pas pour rester dans le ciboire d'or qu'il descend chaque jour du ciel, mais afin de trouver un autre ciel qui lui est infiniment plus cher, le ciel de notre âme. Alors elle continue, en parlant de son confesseur, « J'étais très peu de temps à confesse. Jamais je ne disais un mot de mes sentiments intérieurs. La voie par laquelle je marchais était si droite, si lumineuse, qu'il ne me fallait pas d'autre guide que Jésus. Je comparais les directeurs à des miroirs fidèles qui reflétaient Jésus dans les âmes, et je disais que pour moi, le bon Dieu ne se servait pas d'intermédiaire, mais agissait directement. » Alors, elle parlait tellement peu de ses sentiments intérieurs qu'elle n'avait jamais dit à son confesseur qu'elle désirait entrer au Carmel. Alors qu'elle savait depuis l'âge de 9 ans et demi qu'elle serait carmélite à Lisieux, sous le nom de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous rappelle ça. Hein, Thérèse a préparé sa première communion comme une future carmélite. Les méchantes langues diraient qu'on a chauffé sa vocation. Toutes les carmélites de Lisieux lui ont envoyé un petit message à l'occasion de sa première communion à la petite Thérésita qui un jour viendra nous rejoindre. Mais elle savait qu'elle s'appellerait Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est Marie de Gonzague, la supérieure, qui le lui avait proposé. Et ça correspondait tout à fait à son désir. Voilà. Donc à 9 ans et demi, elle sait qu'elle va devenir carmélite. Sous le nom de... Parce que Mère Marie de Gonzague avait peut-être des défauts, mais elle avait suffisamment de discernement pour se rendre compte que cette gamine désirait le Carmel, non pas pour retrouver ses grandes sœurs, mais pour Jésus. Voilà. Et alors, comment son confesseur a-t-il appris que ça dirigeait désirer le Carmel? Par le journal. Par le journal. Thérèse s'en va à Rome, et vous savez ce qu'elle fait? Elle ose désobéir au vicaire général, qui était chargé justement de surveiller sa vocation. Notre Saint-Père est fatigué, dit le vicaire général. Il n'est pas question de lui parler. Vous baisez son anneau et vous dégagez aussitôt. Elle est la seule qui va oser désobéir à M. Réveroni. Elle a beaucoup hésité jusqu'au dernier moment. Très Saint-Père, à l'occasion de votre jubilé, j'ai une grande grâce à vous demander, etc. Je vais entrer au Carmel à 15 ans. Le pape, il ne se mouille pas, vous entrerez si Dieu le veut. Bon. Elle est empoignée par les gardes pontificaux. Comme disaient un jour les élèves de 6e à qui je parlais, elle a été en prison à cause de ça. Non, quand même pas. D'ailleurs, le journal, l'univers, à l'époque, un pèlerinage à Lisieux, c'était à Rome, au Saint-Paul-Apsus, un pèlerinage à Rome, etc. Et alors, le journal de l'univers, dans un numéro du 24 novembre 1887, explique, parmi les pèlerins, il y avait une jeune fille de 15 ans qui a demandé au Saint-Père la permission de pouvoir entrer le plus vite possible au couvent pour s'y faire religieuse. Sa sainteté l'a engagé à un peu de patience. Ah mince alors, dit le vicaire, elle ne m'a jamais dit la coquine qu'elle désirait entrer au Carmel. La plus jeune, c'est elle. Voyez, elle parlait tellement peu. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, le frère. Hein. Non, elle parlait tellement peu de sa vie intérieure qu'elle ne disait même pas que depuis des années, elle désirait le Carmel. Sans doute voulait-elle que, justement, le confesseur ne se mêle pas de tout ça et qu'on ne dise pas après que c'était le curé qui l'avait encouragé à être carmélite. Voilà. Alors, pour vous donner une idée quand même de sa vie intérieure, eh bien, le plus simple, c'est d'aller voir les compositions les compositions françaises qu'elle rédigeait à l'école. Alors, il y en a une qui semble... Vous savez qu'on a publié le cahier d'école de Thérèse. Alors, il y en a une qu'elle fait à ce moment-là, quand elle termine ses études à l'abbaye. À l'abbaye, c'est-à-dire chez les bénédictines. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce moment-là? Quels sont les thèmes des dictées que l'on faisait à l'époque? Très souvent, sont rappelés le devoir de ne pas perdre son temps, le danger de se fier aux apparences, le devoir de ne jouer qu'après avoir fait ses devoirs, l'importance du partage, le soin qu'il faut apporter aux choses apparemment sans importance. Vous voyez, on n'a pas entendu Sainte Thérèse pour savoir que la sainteté peut consister à faire des choses tout à fait simples. Saint François de Sales y avait insisté bien longtemps auparavant. On insiste aussi sur le rôle essentiel de la volonté dans la réussite de la vie. Alors sur ce thème, Thérèse a écrit le 26 octobre 1885 un devoir de style qu'elle a inventé, dans lequel, sous couvert de s'adresser à une amie, elle décrit son propre combat spirituel. Cette amie imaginaire, qu'elle prénomme Agnès, évidemment, en souvenir, en pensant à sa chère Pauline qui est devenue sœur Agnès au Carmel de Lisieux, à cette amie imaginaire nommée Agnès, elle écrit cette lettre et elle pense à ce qu'elle aurait envie de dire à sa chère Pauline si elle pouvait causer longuement avec elle au parloir du Carmel. Sainte Agnès n'a pas toujours bon caractère. Elle se rebute quand les choses ne se déroulent pas comme elle le voudrait. Et elle répond à ceux qui la contredisent. Il est évident que Thérèse confie ici l'une de ses tentations constantes et les efforts qu'elle déploie dans sa jeunesse pour obtenir une parole de réplique. En pareil cas, continue Thérèse, on est tenté de dire « c'est plus fort que moi ». Ce n'est pas vrai, poursuit-elle, car tu n'as qu'à te laisser bien persuader qu'avec la grâce de Dieu, on arrive à tout ce que l'on veut. Et tu verras que tu arriveras en effet à ne plus répondre pour un rien, et à dire « c'est plus fort que moi ». C'est vrai que cela demande un effort, mais quand on se prépare à sa première communion, on doit être heureux de faire un petit sacrifice, et cela mortifie un peu notre orgueil, toujours avec cette faute d'orthographe énorme. Un mot-clé chez Thérèse, et qu'elle écrit presque toujours ainsi. Comme au moment de sa première communion, j'humilierai mon orgueil. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Aussi ne dois-tu pas attendre demain pour l'accomplir? Mais il ne faut pas non plus t'imaginer que tu seras toujours victorieuse. Si l'on était ainsi, cela ne servirait qu'à augmenter ton orgueil. L'essentiel est de garder toujours ta bonne volonté. Voyez à quel point tout ce qu'elle dira plus tard, elle le vit déjà à 13 ans et demi. Je rappelle que très tôt, elle a été habituée à faire des actes des sacrifices qu'elle enregistrait sur un chapelet de pratique. Si vous allez visiter les Buissonnets à Lisieux, vous verrez qu'on expose le chapelet qu'elle avait, comme les petites filles de son époque, où on enregistrait les sacrifices que l'on faisait. Chaque fois qu'elle rendait un service alors qu'elle n'avait pas envie de le faire, qu'elle offrait un sourire au Seigneur alors qu'elle avait envie de bouder, elle enregistrait cette pratique, comme on disait. On appelait ça un chapelet de pratique. Il y avait 33 grains pour rappeler les 33 années de Jésus. Alors chaque fois qu'on faisait un sacrifice, tchouk, 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 et on appelait ça un chapelet de pratique. Ça ne se vend plus, mais ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines aumôneries de collège, les enfants, les adolescents s'amusent à refaire des choses comme ça. Alors vous ne vous en servez pas, parce que vous faites tellement de pratiques dans une journée que vous feriez éclater le boulier, voyez. Alors, le lendemain, on remet le boulier à zéro pour recommencer, voilà. On appelait ça un pratiquoire. Elle faisait des concours avec Céline, à savoir celle qui en le ferait le plus. Alors, on continue. Oh. Alors, elle entre au Carmel. Et là, c'est la confession qui va avoir le plus d'importance dans sa vie. Ses sœurs aînées avaient comme père spirituel un jésuite, le père Pichon. Un jésuite excellent. Mais très vite, il est parti au Canada, et donc Thérèse n'a plus jamais revu son père. Elle s'est confessée à lui au début du Carmel, au début de son entrée au Carmel, et elle ne l'a plus jamais vu. Elle lui écrivait tous les mois, et lui répondait une fois par an. Donc si vous avez un père spirituel qui ne répond qu'à une lettre sur 12, vous avez un point commun avec la petite Thérèse. Le père Pichon a déchiré consciencieusement toutes les lettres qu'il a reçues de sa dirigée, mais elle conservait précieusement toutes les lettres qu'elle conservait du père Pichon. Alors évidemment, on a là un trésor disparu à jamais, voyez. Heureusement que les pères spirituels de Mère Teresa n'ont pas fait la même chose. C'est avec Mère Teresa qui a pris le nom de Teresa à cause de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était jeune religieuse. Elle a eu une nuit spirituelle qui a duré 49 ans. Elle a eu sa lune de miel avec Jésus qui a duré un an et demi et qui lui a permis de fonder les missionnaires de la charité. Et puis ensuite, ça a été une nuit spirituelle qui a duré 49 ans, mais qu'elle ne confiait qu'à 4 personnes, 2 prêtres et 2 évêques, en lui disant « Supprimez bien tous les petits papiers que je vous donne. » Ils ont eu la bonne idée de ne pas les supprimer. Et donc, c'est bien après la mort de Mère Teresa, au moment du procès de béatification, qu'on a appris cette terrible nuit spirituelle dont a souffert cette grande sainte de notre temps. Bon. Donc, Thérèse s'est confessée au père. Et alors, Jean Vanier m'a dit que les grands-parents de ses grands-parents, hein, Vanier, pensaient faire béatifier le père Pichon, tellement c'était un saint homme. Elle a eu la chance, Thérèse, d'avoir. Elle a été entourée de gens extraordinaires. Elle a eu comme évêque qu'il a autorisé à être Monseigneur Hugonin, qui était l'un des grands évêques de France. On lui avait proposé d'être primat des Gaules, archevêque de Lyon. Il avait refusé en disant non, un évêque ne doit pas se séparer de son diocèse. C'est aujourd'hui, les évêques grimpent en quelque sorte. Ils sont d'abord évêques d'un petit diocèse de France, ou bien évêques auxiliaires de Paris, et puis ensuite, ils montent plus haut. À l'époque, on ne changeait pas de diocèse. Ça a été très longtemps comme ça, d'ailleurs. Bon, elle a eu la chance d'avoir un excellent évêque. Elle a connu au Carmel de Lisieux, Mère Geneviève, qui était une sainte. Elle a eu la chance d'avoir sa propre sœur comme prieure à un certain moment, Pauline devenue mère Agnès. Bon, elle a été gâtée, elle le sait, elle a été gâtée énormément. Donc elle va se confesser au père Pichon, et là, elle va recevoir une très grande grâce. Elle nous explique qu'elle avait la difficulté, elle a toujours une certaine difficulté à s'exprimer par oral au moins. Elle le fera davantage par écrit. Donc, à l'époque, comme encore maintenant, il fallait rendre compte un peu de son âme à sa maîtresse de novice. Mais elle avait un mal fou à s'exprimer à sa maîtresse de novice. Ce n'était qu'avec effort qu'il était possible de faire direction. N'étant pas habitué à parler de mon âme, je ne savais comment exprimer ce qui s'y passait. Une bonne vieille mère comprit un jour ce que je ressentais. Elle me dit à la récréation, « Ma petite fille, il me semble que vous ne devez pas avoir grand-chose à dire à vos supérieurs. Pourquoi, ma mère, dites-vous cela ? Oh, parce que votre âme est extrêmement simple. Mais quand vous serez parfaite, vous serez encore plus simple. Plus on s'approche du bon Dieu, plus on se simplifie. » Non, elle sait, c'est la mode, c'est la coutume, quand on entre au Carmel, on fait une grande lessive, on doit faire une confession générale à un prêtre. Et elle sait qu'elle peut le faire à ce père Pichon qu'elle connaissait peu, à la différence de ses grandes sœurs qui le connaissaient beaucoup. Voilà. Alors, elle se confesse à lui. Deux mois après son entrée, on sait que ce lundi 28 mai 1888, il était venu pour la profession de Sœur Marie du Sacré-Cœur. Il fut surpris de voir ce que le bon Dieu faisait en mon âme. Il me dit que la veille, m'ayant considéré au cœur, il croyait ma ferveur toute enfantine. Mon entrevue avec le bon Père fut pour moi une consolation bien grande. Mais voilé de larmes à cause de la difficulté que j'éprouvais à ouvrir mon âme. Je fis cependant une confession générale, comme jamais je n'en avais fait. À la fin, le Père me dit ces paroles, les plus consolantes qui soient venues retentir à l'oreille de mon âme, en présence du bon Dieu, de la Sainte Vierge et de tous les saints, je déclare que jamais vous n'avez commis un seul péché mortel. Puis, il ajouta, remerciez bien le bon Dieu de ce qu'il fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendriez un petit démon. Ah, je n'avais pas de peine à le croire. Je sentais combien j'étais faible et imparfaite, mais la reconnaissance remplissait mon âme. Bon, eh bien, on va voir ça jusqu'à la fin de la conférence. Elle va se rappeler toute sa vie cette parole du Père Pichon. Elle sait que pour elle, comme pour beaucoup d'autres, le grand danger, c'est l'orgueil. Et c'est un contresens qu'on fait souvent. Quand on fait un pèlerinage à Lisieux, on va s'incliner devant la charge de Thérèse et on s'imagine qu'elle était spontanément simple, humble, comme un enfant. Quelle erreur! Quelle erreur! Thérèse fait partie de cette immense région des orgueilleux anonymes. C'est le père Molinier, un grand disciple de Thérèse, qui dit ça. Hein, il rêve d'une procession des OA. Il y a les AA, les alcooliques anonymes. Eh bien, il y a les orgueilleux anonymes qui pourraient partir en procession à Lourdes. Les cardinaux en tête, bien sûr, les bonnets rouges. Hein. Bon, très sainte Vierge, on vient demander la guérison de notre orgueil. Retenons bien, retenez ça. On va voir que ça va être son problème. Comme le problème de tous les saints, de nous tous, le gros problème, la grande tentation, c'est l'orgueil. Un orgueil subtil, hein, qui fait qu'on se dit c'est quand même pas mal, je suis arrivé à une certaine maîtrise de moi-même, etc. Non, Thérèse sait qu'elle est très tentée. Si le bon Dieu vous abandonnait, vous seriez un vrai petit démon. Voilà. Je n'insiste pas plus parce que, j'allais dire, je pourrais presque m'arrêter là parce que si vous comprenez ça, vous comprenez Thérèse. Hein? Elle va se battre toute sa vie pour... On s'aperçoit de plus en plus que c'est évidemment une surdouée, hein, à beaucoup de points de vue, même du point de vue littéraire. On se rend compte que ses poésies ont vraiment du talent, voire du génie parfois. Non. Donc, elle va sans cesse demander au Seigneur la grâce de rester petite en se souvenant de tout ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle sait très bien que l'antidote de l'orgueil, c'est l'action de grâce. C'est tellement le Seigneur m'a préservé, c'est tellement j'ai été bien entouré, etc. Bon, mais si je l'oubliais, je deviendrais un sale petit démon. Une grande grâce qu'elle a reçue l'année suivante, en juillet 89, c'est une grâce dont elle n'a jamais parlé à son confesseur. Alors c'est une très grande grâce, une grâce mariale, que l'on oublie un peu trop souvent. Vous savez qu'elle a été guérie dans son enfance par le sourire de Marie, la statue que M. Martin, la statue qu'il a dans la représentation est là au-dessus des reliques. Hein. Une statue d'ailleurs, le modèle se trouve à Saint-Sulpice. Si vous êtes bien avec le sacristain de l'église Saint-Sulpice de Paris, vous faites ouvrir, bon, c'est un mauvais conseil que je vous donne parce que vous allez déranger, mais d'une armoire dans laquelle se trouve une statue semblable à celle-là, qui a servi de modèle pour la médaille miraculeuse,
demandé par la Sainte Vierge à la rue du Bac, et qui a servi de modèle aussi pour cette statue que M. Martin avait reçue tout jeune, quand il était encore célibataire. Et quand il s'est marié, cette statue est devenue le centre de la prière familiale. Elle se trouve maintenant au-dessus, l'original se trouve au-dessus de la chasse de Thérèse à Lisieux. Alors, vous savez que lorsque Thérèse est malade, la statue qui se trouvait près du lit s'est animée un moment, que la Sainte Vierge lui a souri, et qu'elle a été immédiatement guérie. Alors, pendant des années, elle se demandait si vraiment la Sainte Vierge lui avait souri, ou bien si sa sourire était finalement une suite de son hallucination. Mais c'est seulement en venant à Paris, avant de partir à Rome, dans l'église qu'elle aimait tant, Notre-Dame des Victoires, que la Sainte Vierge lui avait compris qu'elle lui avait vraiment souri, que ce n'était pas la statue, que c'était elle qui lui était apparue. Et à partir de ce moment-là, elle ne va plus jamais douter d'avoir bénéficié du sourire de Marie. Mais il y a une autre grâce mariale encore plus importante dont elle a bénéficié à l'âge de 16 ans. À 16 ans et demi. En janvier 89, elle prend l'habit. Elle revêt l'habit carmélitain. Et vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais vous allez apprendre aujourd'hui, que lorsqu'une carmélite revêt son scapulaire au-dessus de sa tunique, c'est vraiment le manteau de la Sainte Vierge. Parce que c'est l'argument qui a permis aux Carmes de s'installer en Europe au XIIIe siècle, quand ils ont été chassés par l'invasion des musulmans. Lorsque l'armée des croisés a été obligée de reculer devant les musulmans, ils ont été obligés de se réfugier en France. Et l'argument, et les dominicains, et les franciscains les critiquaient, vous n'avez pas le droit de vous installer, vous n'êtes pas reconnu par l'Église, etc. Il a fallu un siècle pour qu'ils finissent par être acceptés. Ça s'est terminé par une dispute à Oxford à la fin du XIIIe siècle. Et alors l'argument qu'ils prenaient notamment, c'était « Nous sommes très spécialement l'ordre de la Vierge Marie. Le scapulaire, c'est le manteau de Marie qui nous entoure. » Et Thérèse avait appris ça, évidemment, en entrant au Carmel. Elle le savait déjà avant. Être carmélite, c'est vite sous le manteau de Marie. Et voilà qu'en juillet 89, était-ce le 14 juillet pour le premier centenaire de la Révolution française, je préfère que ce soit le 16 juillet 89, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, alors qu'elle est en train de prier dans un tout petit oratoire, un tout petit ermitage du jardin du Carmel, elle se sent subitement, soudainement, entourée, enveloppée par le manteau de Marie. Elle n'a jamais lu une ligne de Grenoble Montfort. À l'époque, Grenoble de Montfort était totalement ignoré dans les Carmels. Car Grenoble de Montfort fait partie de ces saints qui ont vécu longtemps dans un tunnel. C'est seulement à l'époque moderne qu'on va le retrouver. Alors, elle a compris, sans avoir jamais lu une ligne de Grenoble de Montfort, la grande idée de Grenoble de Montfort, l'idée qu'il a réconcilié Jean-Paul II avec la dévotion mariale. Vous savez sans doute que Carole, lorsqu'il était jeune, était énervé par la dévotion mariale des Polonais envers Notre-Dame de Częstochowa. Il pensait que les Polonais, à force de prier la Sainte Vierge, oubliaient la place centrale du Christ dans la piété chrétienne, ça l'énervait. Et c'est la lecture à Cracovie, lorsqu'il était travaillé dans une usine de soude, c'est la lecture de la traduction en polonais du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Guillaume de Montfort, qui a réconcilié Carole avec la dévotion mariale, au point de mettre le grand homme de Marie dans son blason pontifical. Bien, Thérèse n'a jamais entendu parler de Grignon de Montfort, mais grâce à cette grâce mariale, elle a compris la grande idée de Grignon de Montfort et de Jean-Paul II, à savoir que Marie n'est pas seulement quelqu'un qui nous sourit, qui nous aime, qui nous regarde, c'est quelqu'un qui nous enfante littéralement. Nous sommes en Marie comme un saint maternel. Et Thérèse l'a senti, l'a expérimenté dans une grâce mystique. C'est l'une de la seule grâce mystique de Thérèse. Elle n'a jamais vu Jésus, elle n'a jamais senti qu'elle était dans les mains de Jésus. Ça, j'en parlais tout à l'heure quand je ferai l'homélie de la messe en parlant de la façon dont Thérèse communiait. Mais elle a senti qu'elle était en Marie. Mais elle a décidé de n'en parler à personne.
pas même à son confesseur, à personne. Parce qu'elle se souvient que lorsqu'elle avait parlé de la grâce qu'elle avait reçue au blessonné, ce fut une série de questions qui l'ont embêtée. Alors, ma petite fille, quelle était la couleur de la robe de la Sainte Vierge? J'aurais dû ne rien dire. Hein? Donc, elle a décidé d'en parler à personne. Alors, comment le sait-on? Eh bien, c'est tout à fait à la fin de sa vie, quand elle croit qu'elle va mourir le surlendemain. Au début de juillet 1997, on la descend à l'infirmerie, on pense qu'elle va mourir. En fait, la tuberculose ne va pas la faire mourir tout de suite, elle ne mourra que le 30 septembre. Alors, comme elle sait qu'on va écrire un jour une petite biographie sur elle, comme on le faisait parfois, elle se dit que ce serait quand même dommage que je ne raconte pas cette affaire-là. Donc, en 30 secondes, même, on a ça dans ce qu'on appelle le carnet jaune, les derniers entretiens de Thérèse, elle raconte à mère Agnès qu'il ne se retourne pas, qu'elle ne demande pas autre chose. Il y avait comme un voile jeté pour moi sur toutes les choses de la terre. J'étais entièrement caché sous le voile de la Sainte Vierge. Autrement dit, le scapulaire qu'elle a, ce n'est pas seulement un symbole, elle sent, elle expérimente qu'elle est sous le manteau de Marie. J'étais entièrement caché sous le voile de la Sainte Vierge. En ce temps-là, on m'avait chargé du réfectoire. Et je me rappelle que je faisais les choses comme elle le faisait. Elle vit un petit peu dans le ciel. Et ça va durer toute une semaine. Une grande grâce. Vous voyez, là aussi, elle n'en parle absolument pas à son confesseur. Alors, continuons. Une confession très amusante, qui a un certain rapport avec les orphelins d'Auteuil, c'est la confession qu'elle fait au père Blineau. En 90. Donc, elle a 17 ans et 4 mois. Elle se confesse au père Blineau. Le père Blineau, c'était un jésuite qui, de temps en temps, faire des récollections et qui, par conséquent, confessait les religieuses. Thérèse est encore, elle a déjà revêtu l'habit, mais elle est encore toute jeune. Et alors, là, on sait ce qu'elle a dit et ce que... Alors, on le sait évidemment non pas par le confesseur. Il aurait trahi ce qui n'arrive jamais pratiquement, le secret de confession. Mais on le sait par sa sœur. Car à ce père Blineau, elle dit, « Mon père, je voudrais être une sainte. Comme Sainte Thérèse d'Avila, ma patronne. » Ma sœur, vous feriez mieux de corriger vos défauts. Quel orgueil vous avez, voir une sainte comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle s'est permis de contester le confesseur. Mais mon père, Jésus a dit, soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Vous insistez, qu'est-ce que vous avez comme orgueil? Alors c'est Thérèse qui a raconté ça à sa sœur Céline, et c'est comme ça qu'on le sait. Et elle ose contester le père qui la confesse. Mais le père Blineau fait mouche. Vous allez voir l'importance que ça a, l'importance pour cette statue qui est là. Le père Blineau a l'occasion d'aller quelques mois plus tard au Carmel de Paris, à Villemessine, où était entrée une demoiselle Marie-Louise Castel, qui après hésitation était entrée toute jeune dans ce Carmel de Paris. Et elle entend, alors, elle n'est pas encore entrée, mais elle hésite, et elle rencontre ce père Blineau au parloir du Carmel, alors qu'elle n'est pas encore entrée. Et le père Blineau a l'occasion de dire, « Oh, je viens de prêcher une retraite à Lisieux, au Carmel de Lisieux. Il y avait une sœur toute jeune qui m'a fait grosse impression et qui était allée à Rome pour demander la permission d'aller au Carmel. » Alors, il dit ça, bon, comme ça. Hein. La fille n'a réagi pas tellement. Elle entre au Carmel. Et puis, sa santé ne tient pas. Elle est obligée de sortir. Et quand elle veut rentrer, elle n'est pas d'accord. Mais puis, à ce moment-là, vous devriez faire davantage vos preuves. Et puis, elle apprend qu'à Lisieux, peut-être qu'elle pourrait entrer à Lisieux. Surtout qu'elle entend vous dire qu'à Lisieux, il y a quelqu'un de pas mal. Hein, il y a une jeune qui est pas mal du tout. Elle va à Lisieux. Elle est reçue par la sœur de Thérèse. Très bien reçue. Évidemment, elle va entrer au Carmel de Lisieux et elle va donner sœur Marie-Mère Trinité
la grande novice de Thérèse. Parce que, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a quelque chose qui est bien connu de tous ceux qui fréquentent cette église. Quand le père Brottier a décidé de construire cette église, vous savez, nous sommes dans la première église construite en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans le monde, hein. C'est, bon, avant la canonisation. Vous connaissez l'histoire, enfin, je rappelle l'histoire pour ceux qui la. Je la rappelle à ceux qui la connaissent. Quand le père Brottier a été nommé ici en 23, pour reprendre l'ordre de l'abbé Roussel, il s'est aperçu que la chapelle qui servait aux enfants était un véritable hangar. Oh, je devrais faire quelque chose pour Sainte Thérèse. Parce que le père Brottier, pendant toute l'année, pendant toute la guerre, il était aumônier militaire en 14-18. On n'avait jamais entendu parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais en 1919, son père général lui dit: Père Brottier, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez jamais une égratignure. C'est à cause de la petite Thérèse. En septembre 14, quand a commencé la guerre, j'ai mis une image d'eau dans ma bavière. Sainte Thérèse, et de l'autre côté, la photo du père Brottier. Et j'ai dit à Thérèse: celle-là, il faut me la conserver. Hein. Je ne veux pas qu'elle meure, mais faut me la conserver. Et effectivement, alors qu'il a. Il a ramassé énormément de blessés et de morts sur le champ de bataille sans jamais avoir reçu un éclat de blé. Quand il y est en 1919, on apprend que c'est par Thérèse qu'il a été préservé comme ça pendant la guerre. Oh, s'il y a l'occasion, je ferai quelque chose pour elle qui fait. 1923, il est nommé ici. Oh, je vais faire une statue, je vais faire une chapelle pour Sainte Thérèse. Non, tellement il faut de l'argent. Alors, les deux enfants, vous allez faire une attention particulière. Sous-entendu, il faut que j'ai 10 000 francs pour avoir. S'il y a 10 000 francs, elle aura sa chapelle. Le taxi, la veine de la neuvaine, les 10 000 francs ne sont pas là. Mais le taxi est là, attendant le père Brottier pour aller rencontrer l'archevêque cardinal de Paris. Une personne se précipite, mon père, j'ai une enveloppe à vous donner. Madame, écoutez, j'ai pas le temps, je vais voir l'archevêque. Oh, mon père, je crois que c'est important. Il y a une enveloppe, 10 000 francs. Et ça sera toujours comme ça, parce que Thérèse, les billets de rose, la rose c'est intéressant, mais moi je préférais les billets de banque. Bon. Alors, il fait une souscription pour recevoir de l'argent. Et le premier souscripteur, c'est un nommé Castel, Monsieur Castel. Je sais qui se peut construire. Monsieur Castel, c'est un marchand de charbon, un bon. Alors, il prend contact avec ce Monsieur Castel et il s'aperçoit que ce Monsieur Castel, c'est le frère de Marie-Louise Castel qui est entré au Carmel de Lisieux en 1900, qui va y rester 50 ans. Hein? Et Marie, il va savoir pourquoi. Alors, il apprend que Thérèse a entendu parler de cette œuvre de l'abbé Roussel, et donc il va faire Marie de la Trinité, dont j'ai écrit la vie, va devenir la marraine des orphelins d'Auteuil. Et de son vivant, elle ne sera jamais. C'est elle qui présente à Thérèse un orphelin et un apprenti. Voilà. Donc, allez, Marie de la Trinité a été la disciple extraordinaire, on aurait pu la canoniser. Lors du procès de béatification, on se demandait si c'était pas elle qui allait canoniser. Donc, elle a vécu à fond la spiritualité du sourire. Atteinte de lupus en 1923, elle continuait à sourire avec l'autre partie de son visage. C'est elle qui a le mieux assimilé. Enfin, Thérèse a une novice plus jeune qu'elle, avec qui elle a pu une amitié spirituelle extraordinaire entre la maîtresse et lui. Voilà. C'était normal que. Donc, c'est grâce au père Blimont, oui, grâce à cette conférence, cette confession de Thérèse au père Blimont, qui a beaucoup joué pour l'entrée de cette Marie-Louise Castel au Carmel de Lisieux. Alors, une autre confession qui aura beaucoup d'importance, c'est celle qu'elle fait à 18 ans et demi d'un père. Oh, c'est une très belle histoire. Thérèse n'aimait pas cette retraite. Elle se méfiait beaucoup des prédicateurs. C'est comme ça. Trouver des prédicateurs risquait toujours de faire ressusciter ses scrupules. Et en 93, on annonce que va venir au Carmel de Lisieux, pour prêcher la retraite, un père qui connaît pas les religieuses. C'est un grand prédicateur qui remue les foules, qui convertit les grands pécheurs, mais il connaît pas les carmélites. C'était une calomnie, car en fait, il était très bon. Seulement, comme il remplaçait au pied levé un autre, qui avait une excellente réputation, Thérèse se méfie de celui-là. Elle fait une neuvaine préparatoire pour que ce père Alexis ne lui fasse pas trop mal. Et puis, au miracle, quand elle va se confesser, c'est la première fois de sa vie qu'elle se sent comprise par ce père. Hein? Elle est bien frappée. Mais bon Dieu, voulant me montrer que c'était lui seul le directeur de mon âme, je servais justement de ce père qui ne fut apprécié que de moi. J'avais alors de grandes épreuves intérieures de toutes sortes, jusqu'à me demander si le ciel existait. Donc, cette épreuve commence à pointer. Je me sentais disposé à ne rien dire, et elle se sent enfin comprise. Après avoir dit peu de mots, je fus comprise de façon merveilleuse et même devinée. Mon âme était comme un livre dans lequel le Père lisait mieux que moi-même. Il me lança à pleine voix sur les flots de la miséricorde, de la confiance et de l'amour qui m'attirait si fort, mais sur lequel je ne sais avancer. Il me dit que mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu. Que, tenant sa place, il me disait de sa part qu'il était très content de moi. Oh, que je fus heureuse en écoutant ces consolations, ces consolantes paroles. Jamais je n'avais entendu dire que les fautes pouvaient ne pas faire de peine au bon Dieu. Cette assurance me combla de joie. Elle me fit supporter patiemment l'exil de la vie. Bon. Et là, ce qui est amusant, c'est que, pour une fois, elle avait envie d'aller voir le Père. Elle n'allait jamais voir le Père entre les instructions. Jamais, jamais. Pour une fois, elle a envie d'aller le voir. Seulement, voilà. Mère Marie de Gonzague dit à ses troupes, mes sœurs, on voit bien que nous avons cette semaine un Père qui ne connaît rien à la vie religieuse. Si j'ai un conseil à vous donner, je n'ai pas à aller le voir. Thérèse sait très bien qu'elle peut désobéir à cette exhortation de sa prière. Et elle a d'autant plus envie dans la mort qu'elle est à la sacristie et elle entend le père Alexis faire les 100 pas dans la sacristie attendant le client éventuel. Il lui a suffi de bonne patience, mon père, j'ai envie de vous rencontrer. Elle fait pas une chose qu'on ne sait pas, sinon pas les MPP. C'est des choses qui n'ont pas été éditées. Les notes préparatoires au procès apostolique. Vous voyez, c'est quand les carmélites ont fait leur déposition, elles ont préparé leurs notes, et puis de temps en temps, un postulateur, ça ne faut pas raconter, parce que ça ne fait pas bonne impression pour le procès de canonisation. Mais c'est vrai, c'est le plus intéressant. Alors, c'est par les MPP qu'on apprend que, à la fin de la retraite, c'était l'habitude, on se confessait une deuxième fois au prédicateur, c'était la mode. Et Thérèse se dit, ici, j'ai le droit d'y aller, la supérieure, la prieure, elle peut rien me dire, je vais en profiter pour avoir une bonne bavette avec le Père. Et voilà que son tour de confession arrive pendant le repas de midi. La prieure s'aperçoit que la place de Thérèse est vide, qu'elle n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien dire, cette gamine, à un confesseur qui ne comprend rien à la vie religieuse? Elle s'énerve, oui. Et Pauline, mère Agnès, se dit, il va y avoir un drame. Donc, sœur Agnès quitte le réfectoire et s'approche du confessionnal. Thérèse, j'ai quelque chose à vous dire. Dépêchez-vous. Alors elle sort, qu'est-ce qu'il y a? Mère Agnès, mère Marie Gozac, c'est là tellement resté longtemps. Dépêchez-vous, restez pas si longtemps. Et Thérèse calmement lui dit, c'est vous qui venez de vous-même ou bien c'est mère Marie Gozac qui vous envoie? C'est moi qui viens de. Oh voilà, c'est ça, je vais en profiter. Elle me répondit avec un calme et d'un ton résolu, non, je ne sortirai pas. Mon Dieu veut que je reste ici.
en ce moment, car je dois profiter de ses grâces et de ses lumières. Je supporterai ensuite toutes les peines qui arriveront. Autrement dit, la mère, elle n'est pas contente, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, je trouve ça délicieux. Vous voyez, elle obéit, et puis elle se dit, ben, j'ai une bonne occasion de ne pas obéir à ma supérieure. Non, parce que quand je prêche une retraite sacerdotale, j'aime bien de commenter ça. Mais voilà, un père qui retourne à la gare de Lisieux, il a l'impression qu'il a complètement raté son coup, quoi. Il n'y a personne qui venait le voir. Bon, sérieux. Et puis, il se rendra compte plus tard qu'il est le seul à avoir compris la plus grande somme du temps moderne. Moi, je dis au prêtre, quand vous faites une récollection, vous avez confessé une personne, vous avez l'impression d'avoir pas fait grand-chose, et puis sans le savoir, vous avez confessé la plus grande somme du 21e siècle. Voilà. Alors, malgré cette confession au père Laxi, le franciscain, elle a encore de temps en temps des scrupules. Et le père Pichon est obligé de lui écrire quelques mois plus tard. Mes chers enfants, écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, vous n'avez pas fait de péché mortel. Je le jure, non. On ne peut pas pécher mortellement sans le savoir. Croyez-moi, jamais, jamais, vous n'avez fait un seul péché mortel. Voyez. Donc, le scrupule restera toujours à l'horizon, enfin, une tendance de Thérèse. Nous allons voir maintenant qu'elle s'est fâchée contre le père Pichon. C'est intéressant, ça. Je ne dis pas qu'il va vous fâcher contre... Mais elle va se battre contre son père spirituel. C'est très intéressant. Pour sa liberté d'esprit. En effet, 94, M. Martin va mourir. Il est revenu de l'hôpital de l'asile. Comme il est paralysé des jambes, il risque peu de faire une fugue. Donc, il est accueilli à Lisieux. Il est soigné par Léonie et Céline. Et on se rend compte qu'il va bientôt mourir. Et, manifestement, Céline, qui a 4 ans de plus que Thérèse, désire la vie religieuse. Mais le père Pichon, qui est parti au Canada, se dit, Céline ne pourra pas être admise au Carmel de Lisieux, puisqu'il y aura 3 filles, Martin. C'est vrai que, normalement, il ne doit jamais y avoir plus de 2 sœurs de la même communauté dans un Carmel. On a fait une exception pour Thérèse. Et pour la cousine, Marie de, la fille du pharmacien. Donc il y avait 4 filles du clan Martin Guérin dans le Carmel de Lisieux. Et c'est pour ça que elle n'avait pas le droit de Thérèse n'avait pas le droit de voter au chapitre. Parce qu'elle aurait fait pencher les élections d'un côté du clan. Le père Pichon se dit, Céline a beaucoup de qualités. C'est une effarge. Elle n'est pas faite pour le Kermit. Je vais la faire venir au Canada. Elle utilise ses talents pour fonder une espèce de religion dans le monde. On va passer autrement maintenant. Mais n'en parlez à personne. N'en parlez à personne. C'est un secret entre nous. Et tu vois ça que Céline, c'est bizarre, dans ses lettres, elle fait allusion. Bon, voilà que M. Martin meurt en juillet 94, et Céline est obligée de souvenir du projet de père Pichon. Quand Thérèse apprend que son père spirituel a manœuvré comme un vrai jésuite, vous le savez, comme ça, elle ferait que. Cet être est magnifique. Je me branche le cœur. Elle écrit à Céline, ne crains rien. Je ne te tromperai pas. Si tu savais comme ta candeur d'enfant me ravit. Mais j'en ai le cœur déchiré. Et un petit peu plus loin. J'en ai gros sur le cœur. J'en ai gros sur le cœur. Comme un père Pichon, il nous a menti comme ça. Et elle va tout faire pour que le père Pichon ne puisse pas réaliser ce truc. Car Thérèse pense que c'est moi qui m'a promotionné, c'est pas le père Pichon. Mais il y a cette liberté d'esprit. C'est moi qui m'a promotionné. C'est lui qui doit être au Carmel de Lisieux, comme une 4e fille Martin. J'en ai gros sur le cœur. Mais aussitôt, à la ligne. Mais je remercie le bon Dieu de cette épreuve que lui-même a voulu. Vous voyez, c'est cette fois la providence. affectant pour que Thérèse, et Thérèse entrera quelques mois plus tard au Carmel de Lisieux, mais cette épreuve, une fois de plus, c'est les deux Job qu'on est en train de lire à la première lecture en ce moment, c'est Dieu qui a permis cette épreuve. Car n'oublions pas la foi formidable que Thérèse a eue en la Providence et qu'elle exprime dans une lettre à Léonie, le seul bonheur en ce monde, c'est de toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Et faire de toutes les grâces de Thérèse. Et donc, et dans le même, à une minute d'intervalle, Jean le Gros sur le cœur, le Père Pichon exagère, je reconnais un peu contre lui, mais c'est une. Mais il ne réussira pas. C'est bien en train de carrer les yeux, mais c'est une épreuve que le Seigneur permet. Alors, je termine par son épreuve spirituelle, à la fin de sa vie, vous le savez. Si vous savez que j'ai pas de série de retraite, si vous avez envie de continuer, hein. Demain matin, je commence une nouvelle retraite sur le thème main vide et main pleine devant Jésus. Car Thérèse est tantôt les mains vides, tantôt les mains pleines, on verra ça. Bon, à l'offertoire, et à la communion, on est plutôt les mains vides, à l'offertoire, les mains pleines. Et puis, en soirée, je ferai une autre nouvelle retraite sur le ciel. L'enfer et le purgatoire, j'ai Thérèse. Très important de voir comment elles sont représentées les fins dernières. Et alors, vous savez qu'à la fin de sa vie, elle était tentée de douter de l'existence du ciel. On n'a jamais douté, mais elle a été tentée. Et ça, elle l'a confié à son confesseur, au Carmel, elle a toujours eu le père Youf, l'abbé Youf, un excellent prêtre, qui était resté pendant 42 ans. 24 ans au Carmel, et qui est mort juste 8 jours après Thérèse, mais il était un peu dépassé par l'événement. Il dit, oh, c'est très dangereux. Bon, heureusement, c'est un autre prêtre, le père Godefroy Madeleine, qui lui a donné un conseil. Bien, pour bien montrer à Jésus que vous croyez à tous, à tout le crédit, vous avez le cœur de votre main. Et Thérèse l'a été de sa main, mais avec son sang. C'était une petite mode à l'époque, quand une fiancée voulait écrire une lettre d'amour à son fiancé, elle se piquait le doigt, et avec elle trempait sa plume gauloise ou sergent-major dans son sang. Chérie, je t'aime, je le tiens avec mon sang. Oui. Quand je fais une conférence, les gens me disent, est-ce que vous avez déjà fait ça? Les dames, elles disent, non, ça ne provenait pas du 19e siècle, je crois que personne n'a déjà. Mais alors Thérèse s'amuse, c'est vraiment méchant, elle écrit avec son sang le credo, un texte qui est consacré précieusement à l'appel de la lumière à les yeux, et elle le met à la fin des quatre évangiles qu'elle portait toujours sur elle, hein, pour bien montrer qu'elle était prête à verser toutes les gouttes de son sang pour affirmer la vie éternelle. Et à chaque fois qu'elle était tentée de douter de l'existence du ciel, elle mettait la main sur sa poitrine, là où, en tout son scapulaire, il y avait les quatre évangiles et le texte « Je crois à la vie éternelle ». Alors, sur son lit de mort, il est très important de voir qu'elle sait qu'elle reste orgueilleuse. Vous voyez, c'est très important, ça. Alors, elle fait de temps en temps une faute de manque de charité envers une sœur Marthe, qui a cru fort, bon, en lui offrant un petit moment à manger à l'infirmerie, mais surtout un café à sa sœur, on l'a sait dans les derniers entretiens, qu'elle pourrait aller en enfer. J'y reviendrai après-demain, ou le vendredi plutôt, quand je parlerai de l'enfer chez Thérèse. Bon, comment bon. Thérèse sait qu'elle pourrait aller en enfer. Chaque fois qu'elle comprend un peu plus qu'elle pourrait basculer dans l'orgueil, elle se précipite avec une entière confiance dans les bras de Jésus pour qu'il la sauve de ce péril. Elle ne compte pas sur sa bonne volonté, mais sur lui seul. Le 7 août 97, elle confie à Mère Agnès qu'elle ne cesse de dire au bon Dieu, « Oh mon Dieu, je vous en prie, préserve-moi du malheur d'être infidèle. » Et comme ça, ça lui demande de quelle infidélité elle parle, Thérèse continue, une pensée d'orgueil entretenue volontairement. Elle ne doit surtout pas penser qu'elle est capable de résister par elle-même à telle tentation. De dire par exemple, « Oh mon Dieu, je vous aime trop, vous le savez, pour m'arrêter à une seule pensée contre la foi. » Mes tentations deviendraient plus violentes, et j'y suis compris, certainement. Il ne faut pas imiter la conduite de Saint-Pierre, qui n'a compté que sur lui-même. au lieu de s'appuyer uniquement sur la force du bon Dieu. Je suis bien sûr que si Saint Pierre avait dit humblement à Jésus, accordez-moi, je vous en prie, la force de vous suivre jusqu'à la mort, il l'aurait fait aussitôt. Donc, même si elle dit à un certain moment, le petit, ça ne se donne pas. Elle sait, il ne faut jamais oublier ce qu'elle dit à la fin de son fameux testament de 96. C'est une phrase que je commande souvent parce qu'elle est capitale. Ô Jésus, si tu trouvais une âme plus faible que la mienne, tu te plairais à la combler de faveur plus grande si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Qu'est-ce que ça veut dire une âme plus faible? Thérèse, c'est qu'elle est forte. Grâce à l'éducation qu'elle a reçue, elle a une force d'âme qui lui permet de résister à la tentation de parler. Enfin, elle est forte. Donc, plus faible, ça veut dire plus orgueilleuse, mes chers amis. Thérèse, c'est que sa faiblesse est d'être tentée par l'orgueil. C'est fondamental, ça. Et elle sait que... Mais elle n'est pas traumatisée par cette grande tentation d'orgueil, parce que justement, c'est ça qui lui permet de s'abandonner encore un petit peu plus dans les bras de Jésus. Thérèse a bien compris cette grande tradition chrétienne qu'on trouve spécialement chez saint François de Sales, qu'il est normal d'être fragile, que c'est notre condition, qu'on n'est pas le bon Dieu, et que c'est grâce à cette fragilité repérée qu'on se précipite un petit peu plus dans les bras de Jésus pour y être en sécurité. Vous savez qu'il y a beaucoup de rapports entre saint François de Sales et Thérèse. Thérèse a été élevée par trois grandes sœurs qui sont allées à la visitation du Mont, qui sont pétries de la spiritualité salésienne. Or, quel est le mot que saint François de Sales ne cesse de rappeler? Le mot d'Isaïe, le Seigneur conduit au repos les brebis, mais les agneaux fragiles, il les porte sur son dos et dans sur son cœur. Il a la joie d'être une brebis fragile. C'est exactement la spiritualité de Thérèse, le fameux ascenseur de Thérèse. Par moi-même, je suis trop petite, je suis trop faible, trop orgueilleuse. Mais dans les mains de Jésus, je me remets pour être en sécurité. C'est tout à fait ce que dit saint François de Sales et que Thérèse dit autrement. Les brebis, le Seigneur les accompagne sur le chemin, mais les agneaux fragiles, il les porte sur ses épaules et dans ses bras. Il a la joie à être fragile, à être faible, à être orgueilleuse. Parce qu'on n'est pas, humble par soi-même, mes chers amis. Imaginez quelqu'un qui dit, moi je suis devenu humble à la force des poignets. Je trouve que ce serait vachement orgueilleux, vous voyez. C'est parce que je suis faible et tenté par l'orgueil que je me remets tout petit dans les mains de Jésus. Et Thérèse le chante dans tous ses poèmes. Par exemple, vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Et je suis faible, je suis fragile. Le père Pichon avait bien raison de me dire, si Dieu m'abandonnait, je serais un sacré démon d'orgueil. Et il me chante encore dans ce grand poème qu'elle a considéré comme le plus important de sa vie. Celui qu'elle a écrit pour faire plaisir à sa sœur Agnès le 21 janvier 1897, l'année de sa mort. Qu'est-ce que c'est qu'aimer Jésus? Ben, c'est me faire beaucoup de sourire, c'est vrai, mais ça, je ne le vis pas bien. Oh Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Ma joie, c'est de rester petite, aussi quand je tombe en chemin. Je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la main. Alors le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi. Et je me redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Oh Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Oh Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Et comment aimer Jésus pour Thérèse? C'est de faire beaucoup de sourires. Ce que me cesse d'enseigner à sa mauvaise préférée, c'est Marie de la Trinité. C'est le débat de Thérèse à cette Marie de la Trinité. Quand tu as envie d'être triste, tu fais un sourire à Jésus.
dans le secret de ton cœur. Et c'est ça qui m'a fait plaisir. Parce que ce qui plaît au Seigneur, ce ne sont pas les épines de notre vie, mais les sourires qu'on lui offre au milieu de nos épines. Que la petite Thérèse vous aide à le comprendre dans le vie, mes chers amis. Merci d'avoir supporté un petit peu plus longtemps que prévu. Demain, je fais de la raclette après tout le monde.